Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, il est 11h06 avec Pascal Duprat, Walid Acharchour, Pierre-Ambroise Boss ce matin. Bonnes vacances si vous en avez, bon courage si vous travaillez, si vous vous réveillez seulement maintenant. Déjà vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant. On a parlé du mercato parisien, de l'affaire Yannick Sinner également. Dans 30 minutes, Alexis Ancacan, paratriathlète, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques, sera en direct avec nous à 4 jours de l'événement. N'hésitez pas à venir aussi lui poser vos questions au 32-16. Et puis à 11h45, les GG contre-attaque. Vous pouvez aller voter sur le compte X des GG du sport. Deux débats, deux excellents débats ce matin. Celui proposé par Pascal Duprat sur Vincent Lavenu, licencié d'AG2R sans ménagement. Pour l'instant en tête, Pascal avec 52%, c'est ultra serré. Le débat proposé par Pierre-Ambroise Boss sur Armand Duplantis, qui peut devenir peut-être, pourquoi pas, le meilleur athlète de tous les temps, est juste derrière à 48%. Mais on le sait, Pierre-Ambroise Boss, la dernière ligne droite, c'est pour lui. Hein, là,
une nouvelle pointe, là, c'est le dernier 200.
Voilà, faites, allez voter pour Pierre-Ambroise. Il ne sera pas là demain en plus, alors Pascal, il est là demain. Je vous dis ça, voilà. Je vous dis rien, peut-être qu'on parlera vélo demain aussi. Donc allez, hein, faites un petit effort pour Pierre-Ambroise Boss. C'est sur le compte Twitter. Ben, j'ai rien orienté du tout là.
Je ne piperai mot, François.
Vous pouvez encore voter. 11h45, le résultat, bien sûr. Et pour la rentrée sur RMC, nous avons décidé de vous couvrir de cadeaux dans les grandes gueules du sport. Et toute la semaine prochaine, pour la rentrée RMC, si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous repartirez avec la totale MacBook Air, iPhone 15, Apple Watch et PlayStation 5. Pour ça, c'est très très simple. Dès que vous entendez ceci, vous envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16. Il y a peut-être déjà des gagnants depuis ce matin et ça peut tomber à tout moment dans les grandes gueules du sport. Donc restez bien à l'écoute. Mais d'abord, dans les grandes gueules du sport, qui a dit « même le temps n'a pas le temps pour le temps ne s'arrête pas, le temps n'a pas le temps, mais il faut du temps ». Un indice chez vous, c'est pas Jean-Claude Van Damme.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Il faut que tu partes avec moi.
Où ça ?
Et vers le futur.
Il fallait qu'il soit charismatique pour pouvoir incarner notre sélection nationale. Ce nom s'est imposé, c'est celui d'Hervé Renard.
Je suis français. Je suis né en France, j'ai un passeport français, mais demain, je suis désolé, je supporterai l'équipe du Maroc.
Mais qui ferment leur gueule.
On est de retour.
On est de retour.
You can make a picture with him, hein, if you want.
Moi, vous voyez bien que je suis pas la mode. Et qui regardez mes fringues, je peux pas suivre la mode. Parce que je m'en contrefous de la mode.
Vous voulez dire qu'on est dans le futur?
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
De toute façon, encore une fois, quand vous envoyez de la merde, on vous envoie de la merde.
C'est pas croyable.
En fait, il n'y a pas de discussion. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. La dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège.
Les mous du genou, mièvre, moi ça m'énerve. Ah mais chacun est comme il veut, mais ça me gonfle quoi en fait. Dans la vie, il faut être enthousiaste. Il faut que chacun raisonne, je pense, comme moi.
C'était mieux avant.
Un excellent Pascal Duprat, vous l'avez entendu, bien sûr, dans cette petite production. Avec ces annonces hier de la Fédération Française de Foot, deux annonces pour le prix d'une. D'abord, Gérald Batic, nommé sélectionneur des Espoirs après le départ surprise de Thierry Henry. Batic qui était l'adjoint de Thierry Henry, ancien attaquant d'Auxerre, de Strasbourg, de Metz notamment. Il a longtemps été aussi l'adjoint à l'OL avant d'être coach principal à Angers. Et puis l'autre annonce, c'est Laurent Bonadéi qui succède donc à Hervé Renard à la tête de la sélection féminine. Contrat de 3 ans pour celui qui était aussi l'adjoint d'Hervé Renard en Arabie Saoudite, mais aussi chez les Bleus lors des Jeux Olympiques. Ce sera sa première expérience en tant qu'entraîneur principal et l'objectif pour lui, le prochain objectif, ça sera l'Euro 2025. Est-ce qu'avec ces choix, les GG, c'est un retour en arrière pour ces sélections? Oui ou non, Pascal Duprat?
Non.
Walid Acharchour?
Je crois que j'ai répondu oui, donc je vais dire
t'as oui. Oui. Pierre-Ambroise Boss?
Non.
Alors pourquoi tu as répondu oui, Walid?
Ah, c'est un retour en arrière parce que je trouve qu'il y avait quand même un gros coup de projecteur sur ces deux sélections-là avec l'arrivée de Thierry Henry et Hervé Renard et qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus classique avec des entrées, enfin des sélectionneurs.
On peut le dire, pas très connus.
Voilà, pas très connus, mais qui vont répondre à ce que désire la Fédération française de football. Même si, attention, et on pourra peut-être en discuter avec Pascal et Pierre Ambroise, c'est pas illogique, parce que quand on sait pourquoi Hervé Renard et Thierry Henry sont arrivés, c'est pas une grande surprise de les voir partir après les Jeux Olympiques, parce que pour moi.
C'était une petite surprise pour Thierry Henry et pour Hervé Renard, moi, parce qu'il l'avait dit.
Pas moi, parce que je pense que Thierry Henry ne vient pas s'il n'y a pas cet objectif des Jeux Olympiques, et je pense qu'Hervé Renard non plus. Donc
ils s'en sont servis comme un tremplin.
Oui, non, renouer avec leur pays, une mise en lumière, aller chercher un gros défi, avoir le projecteur des Jeux Olympiques, voilà, c'était une opportunité pour eux. Mais je pense
donc à ce titre-là, c'est peut-être mieux d'avoir des sélectionneurs qui sont pleinement intégrés dans le projet.
Oui, peut-être. Mais ça reste un retour en arrière. Ça reste un retour. On revient à la base, quoi.
À Sylvain Ripoll.
Oui, mais à Sylvain Ripoll, à Montbert, à tous ces mecs.
Des formateurs.
Mais après, il y a d'autres questions qui se posent. C'est qui est intéressé en fait aujourd'hui par les espoirs.
Pascal Duprat, peut-être. Pascal.
Non, mais
ça ne sert à rien que je réponde, puisqu'il y a eu un sélectionneur qui a été choisi pour respecter le président de la Fédé. Non, mais je ne vois pas où il y a un retour en arrière, en fait. C'est sur la sémantique, peut-être que je ne suis pas d'accord avec Walid. En fait, c'est parce qu'on est peut-être d'accord sur le fond
du débat.
En fait, ce sont deux sélectionneurs donc, qui étaient médiatiques et qui ont choisi pour des raisons qui leur sont propres, parce que c'est certainement que l'intérêt était grand de disputer les Jeux Olympiques, vous vous rendez compte, être sélectionneur des féminines ou des espoirs pour des moins de 23 pour disputer les Jeux Olympiques, c'est pas neutre. Donc pour des garçons comme Hervé Renard et comme Thierry Henry, c'était jugé opportun de le faire. Mais tous ces deux garçons-là ont décidé d'arrêter. C'est eux qui décident. Et la Fédé a choisi de nommer les adjoints. Donc c'est une forme de continuité et plutôt qu'un retour en arrière. Et puis après, il en va de question des bilans. Et moi, ce que j'ai aimé chez Hervé Renard, c'est que, comme d'habitude, il a été très cash, il a été très honnête. On lui a donné tous les moyens, il n'a pas réussi. En Australie, il se fait battre en quart de finale.
Pendant la Coupe du Monde.
Pendant la Coupe du Monde. Et là, à domicile, il se fait battre également en quart de finale. Ça pose donc la question, parce qu'on avait cloué. Oui, et il le dit. Et ça, c'est remarquable de sa part. Et ça pose la question du niveau des féminines, puisque Corinne Diacre, elle a été clouée au pyroli par les joueuses. Donc on soit bien d'accord. Elle a été accusée de tous les maux. Et le sélectionneur suivant, avec plus de moyens, il n'a pas fait mieux. Donc c'est le niveau du football féminin quand il s'agit d'arriver dans le dernier carré, qui pour l'instant est une marche qui semble être infranchissable. Pour ce qui est de Thierry Henry, alors réussite, parce que finale des Jeux Olympiques, cela dit, je ne veux pas édulcorer ou minimiser l'impact et le résultat. Thierry Henry a eu un grand impact sur cette sélection-là, mais c'était quand même pas les huitièmes couteaux comme son prédécesseur quand il va au Japon se faire
Il a eu beaucoup de refus aussi.
Oui, mais moins, malgré tout, moins que son prédécesseur.
C'est vrai. Il faut être honnête.
Il faut quand même le reconnaître. Et puis, pour ce qui est de la qualité de la compétition, mis à part l'Espagne,
l'Argentine.
Autrement, bon, de battre la Guinée ou la Nouvelle-Zélande en poule et puis ou l'Égypte en demi-finale, on va dire que ça revête pas d'un exploit lorsqu'il s'agit du foot français. Donc la dernière chose que je voulais dire, c'est que les deux garçons qui sont choisis, qui étaient donc les adjoints, ils ont du niveau malgré tout.
Et on a oublié, il y a le Maroc qui fait quand même une grosse compétition aussi.
Après, je suis d'accord sur le niveau et pourquoi pas. Et d'ailleurs, Laurent Bonadéi, il a peut-être été choisi aussi parce que parmi les filles, elles étaient vraiment pour qu'il reste. Hein, et il a sans doute une très très belle image auprès d'elles. Mais en termes, encore une fois, on est dans les médias. Hein, en termes de projecteur sur ces équipes-là, l'équipe féminine, l'équipe des espoirs n'en a jamais autant parlé à travers leurs sélectionneurs, Hervé Renard et Thierry Henry. Donc moi, je trouve que c'est quand même dommage, et c'est peut-être les laisser un peu de côté que de mettre des entraîneurs qui sont pas.
C'est pour ça que c'est un retour en arrière.
Voilà, des coachs que l'on connaît beaucoup, très grand public, Pierre Ambroise.
Oui, parce que voilà, vous parlez de l'aspect médiatique et l'aspect de l'attractivité.
C'est pas anodin.
Mais bon, moi, je rejoins Pascal Duprat dans le sens où c'est quand on prend les adjoints, c'est il y a un travail de fond qui est fait, le travail accompli, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé en interne. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont été construites et qui ont besoin de se finir. Et c'est peut-être pour ça que les adjoints ont été pris à ce moment-là. Ou alors peut-être parce que personne ne veut y aller. Mais ça, je connais pas, moi, j'en sais rien.
Enfin, si, il y a des gens qui veulent y aller, je pense, mais c'est pas de l'acabit d'Hervé Renard ou de Thierry Henry. Moi, aujourd'hui, c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais un entraîneur qui, entre guillemets, a de l'ambition en club, voire en sélection, il va pas s'enfermer dans la case espoir. Ouais. Je pense.
C'est... Oui, parce que c'est une catégorie qui est très compliquée.
Exactement, qui est très compliquée.
Le dernier titre, c'est en 88. Hein,
Justement, tu peux avoir envie de faire gagner.
Même aujourd'hui, les joueurs explosent très vite, très jeunes, et ils veulent aller très très vite en A. C'est une case qui est très très compliquée. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas surpris que Thierry Henry ne continue pas après les Jeux Olympiques. Je le voyais pas aller faire le Liechtenstein U23 en amical, etc. Maintenant, ça, ça pose une question.
On embrasse tous nos amis du Liechtenstein.
Non, mais avec tout le respect que j'ai pour eux. Ça pose une question, c'est que faut pas qu'on soit hypocrite. Aujourd'hui, oui, il y a le nouveau discours. Je l'entends un petit peu à travers les arguments de Pierre Ambroise. Oui, mais c'est la continuité. Il y a quand même un an, quand Hervé Renard et Thierry Henry arrivent, on se dit, déjà, pour Hervé Renard, c'est super pour le football féminin.
Mais Philippe Diallo le dit lui-même,
ça va permettre de remplir les stades, d'avoir un vrai coup de projecteur sur le football féminin, et les gens vont s'y intéresser à travers Hervé Renard. Ça a quand même fait pchit. Et le deuxième, c'est sur Thierry Henry. Thierry Henry, je me rappelle du premier match amical à Châteauroux. Châteauroux, le stade était plein à craquer. Nancy, la même chose. Et donc, c'était la Henry Mania.
On va plus en parler.
Donc voilà, donc ça, sur ça, faut pas qu'on soit hypocrite non plus. Après, ça veut pas dire que ça ne fonctionnera pas et que le travail de Batic et de Donadieu, tu as dit. Excuse-moi, le travail de Bonadei et de Batic seront bien meilleurs que Renard et Thierry Henry, et on le souhaite. Mais pour moi, on revient à une ancienne formule, entre guillemets. Mais est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Ils vont pas avoir Pep Guardiola, quoi.
Ils peuvent en tout cas ouvrir des candidatures. Je suis désolé, à un moment donné, là, est-ce qu'il y a eu un débat au sein de la fédération française
Ils ont
de
voulu
foot.
Faire la continuité.
Est-ce qu'à un moment donné, on a reçu des gens, on a entendu des gens, d'ailleurs même, on aurait pu attendre un peu, avoir pendant une semaine, non, mais Pascal Duprat.
Mais
aujourd'hui, qui vas avoir? Moi, j'ai entendu Sabri Lamouchi, Bourvenec. Donc Batic, c'est ce type de coach là aujourd'hui qu'on.
Bah, je sais pas, tu peux mettre
ça. Walid, qu'est-ce que tu leur reproches à ces coachs?
Non, je leur reproche rien.
Et dis juste que ça change rien.
Je dis juste qu'on est sur le même profil de coach et qu'on n'aura pas Thierry Henry.
Parce que la catégorie, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est compliquée.
Et oui, c'est ça, voilà.
Parce que certains entraîneurs, je parle pas pour Thierry Henry et pour Hervé Renard, peut-être plus Hervé, parce qu'il va vite retrouver un challenge dans une sélection nationale. Certainement.
On l'avait compris rapidement.
Ouais, mais comment dire, la catégorie des espoirs, par exemple, c'est une catégorie qui est compliquée. Il y a aussi pour ces entraîneurs-là la grille de salaire. Donc ils sont bankable et ils sont là pour gagner leur vie. Et peut-être que, comme tu l'as dit, l'intimité d'un match de préparation des U23, même si la catégorie doit être intéressante, parce que coacher les meilleurs jeunes du foot français, ça doit être quelque chose de très très intéressant en termes de vécu.
Mais attention, Pascal, je dis pas que Gourvennec ou Sabri Lamouchi sont moins bons que Thierry Henry, etc. Je dis pas ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est ma conviction. Je me dis que, en fait, pour aller chez les espoirs, il faut que ça te serve beaucoup plus que
quand tu es entraîneur,
Oui, ça, en fait.
Je pense que Thierry Henry, ça lui aura servi.
Voilà,
Jusqu'alors, son parcours d'entraîneur, il est pas probant.
Bien sûr, Thierry Henry, ça lui a servi à un moment donné.
Ça lui a servi.
Mais sur un tempo court. pour se relancer, s'entasser et s'enfermer chez les espoirs, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Aujourd'hui, peut-être que ça peut être une porte d'entrée. Par exemple, demain, je ne sais pas moi, un Gourvennec, il a eu des soucis dans ses derniers clubs, notamment à Nantes ou autre. Là, il n'a pas trop d'opportunités. Bon, allez, je me relance chez les espoirs. Par contre, si tu n'as pas besoin des espoirs, tu ne vas pas aller chez les espoirs.
Dans ce cas-là, vaut mieux avoir justement des gens qui étaient adjoints et qui ont déjà travaillé plutôt que quelqu'un qui vient uniquement pour se relancer. Parce que là, c'est pas terrible non plus.
C'est une immense opportunité. Même hormis Angers, où il n'a jamais été numéro 1. Il était numéro 2 de Genesio, là, numéro 2 de Thierry Henry. Il vient numéro 1.
Même par rapport à tes joueurs. Quand tu vois les joueurs, là, ils ont été emmenés aussi par Thierry Henry parce que c'est une personnalité du foot. Il y a ça aussi.
Oui, il y a l'aura dans le vestiaire. Mais c'est pareil pour Hervé Renard. Mais il y a le côté malsain aussi. Hein. Je ne suis pas convaincu que ça soit que pour se relancer non plus et pour avoir un coup de projecteur. Parce que s'il est éliminé en poule au JO, c'est un fiasco total.
Oui,
et à un moment où tu t'appelles Thierry Henry, tu sais que.
Tu joues la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la Guinée, normalement.
Tu peux quand même te risquer.
Normalement, avec Michael Olise, Lacazette, et normalement, s'il n'y a pas de dinguerie, tu t'es en quart de finale quand même.
Il y a un petit message avant de prendre Alexandre qui a fait le 32-16 de Julien sur l'appli RMC Direct Studio qui dit la solution, je l'ai, c'est Pascal Duprat, double sélectionneur des deux équipes de France. Ah oui, Pascal, toi tu n'as pas eu l'occasion de donner ton dossier.
Il a beaucoup d'humour. Non, mais après, il y a un président de fédération, il y a un DTN. Ils ont certainement prospecté. Certainement, j'en sais rien. Ils ne sont pas obligés de nous le dire.
On a beau
être tous renseignés. Le foot est peut-être médiatisé.
Tu n'as pas constitué un petit dossier, là, pour.
On ne me l'a pas demandé. Donc, à partir du moment où je sens que c'est en candidatant, j'avais pas de chance.
Mais c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on ne t'a pas demandé. Ça vient peut-être de là, le problème.
Mais. Je ne sais pas. Enfin, moi, toujours est-il que le fait qu'on mette, il faut rester à ce que vous posez comme question. Oui. J'ai pas l'impression d'un retour arrière.
D'accord.
Alors certainement les feux sont éteints. Il y aura plus les Jeux Olympiques avant 4 ans. Et avant que les Jeux Olympiques soient en France, il va se passer beaucoup d'années. Donc chacun a bénéficié de cette opportunité-là. Et Thierry Henry comme Hervé Renard, ils ont eu raison de sauter sur ces opportunités qui leur étaient offertes. Et ça a donné un coup de projecteur. Pour quel résultat, c'est ça la question.
Alors Alexandre est avec nous au 32-16 dans les Grandes Gueules du Sport ce matin à 11h23. Salut Alexandre.
Bonjour les Grandes Gueules du Sport.
Salut.
Alors, bonjour. Qu'est-ce que tu penses de notre débat autour des deux nouveaux sélectionneurs de ces équipes de France Espoir et Féminine?
Alors déjà, je ne les mettrai pas tous les deux sur un pied d'égalité. Laurent Bonadei, d'accord, il est moins charismatique que Hervé Renard, mais il faut se souvenir que dans l'histoire récente des Bleus, des filles, il y a eu Bruno Bini, il y a eu Olivier Chouafny, et jusqu'à preuve du contraire, ils n'étaient pas beaucoup plus charismatiques que Laurent Bonadei, et ça n'a pas empêché les filles de faire ce qu'elles font déjà, ce qu'elles ont fait avec Hervé Renard.
Pas suffisamment, en tout cas.
Ouais, ça ne change pas grand-chose à l'affaire.
D'accord.
Concernant Baticle, c'est un peu différent parce que si vous voulez, pour les anciens et pour ceux qui connaissent le football, Baticle, c'est Auxerre, c'est la demi-finale de Coupe de l'UEFA, c'est meilleur buteur de la compétition. Mmh. Mais pour les jeunes, pour les plus jeunes en tout cas, c'est directeur sportif Lyon et c'est entraîneur du SCO. Excusez-moi, je rectifie. Donc, en tout cas, quelqu'un qui a fait partie du staff de l'OL. Mais Thierry Henry, pour les jeunes, c'était un consultant sur Amazon qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Tandis que Baticle, il n'a pas cette aura par rapport aux jeunes.
Mmh. Et donc, pour toi, c'est un retour en arrière alors.
Oui, concernant les espoirs, oui, c'est parce que vous avez mis les deux dans le même paquet que je rectifie.
Parce que effectivement, ils ont annoncé ça en même temps, d'ailleurs. Donc c'est pour
Et puis que vous traitez les deux en même temps. Mais moi, je ne traiterai pas les deux de la même manière déjà.
Ok, et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que malgré ce retour en arrière en termes d'aura, ça peut mieux fonctionner avec les deux noms dont on vient de parler?
Comme j'ai dit, pour les filles, ça ne changera pas grand-chose. Pour Baticle, pour les espoirs, j'en sais trop rien. Mais justement, j'ai envie de soulever une question, d'aller encore plus loin que Walid qui a dit « qui va entraîner les espoirs ?» Moi, j'irai encore plus loin, c'est est-ce que du coup, la catégorie espoir, comme dirait la chanson, on pourrait pas la ranger au rayon obsolète?
Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des espoirs?
Ça n'existe plus, quoi, c'est terminé.
Écoutez, on a tout à l'heure mentionné Désiré Doué. qui a 19 ans, il fait sa troisième saison professionnelle. Donc il y a des jeunes qui sont éligibles en U19 et en espoir, qui ont déjà une petite expérience au niveau professionnel. Donc on peut s'interroger sur la pertinence de la catégorie espoir. Ah ouais, aujourd'hui, en 2024,
seulement le U17 et U19,
après, mais pas ça reste quand même une minorité. Des Camavinga, des Désiré. Par exemple, là, Olysée, il va avoir 23 ans, il va intégrer l'équipe de France A. Ça fait deux ans qu'il est avec les espoirs. En fait, je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas éradiquer une catégorie parce qu'il y a 4-5 mecs extraordinaires qui ont réussi à intégrer les A très rapidement, tu vois.
Alexandre,
c'est ce qui fait la force
de la sélection d'équipe de France. Ça permet aussi de découvrir
la force du foot français. T'as une compétition, c'est le championnat d'Europe espoir, c'est pas une compétition neutre. Et un pays comme la France se doit d'y participer. Ce qui est incongru, c'est que depuis 88, la France n'a pas gagné. Ça,
Il y a eu aussi chez les espoirs des problèmes de comportement. Bon, il y en a plus depuis un moment, mais on en a vu aussi. Hein, donc. Voilà, c'est aussi malheureusement une catégorie qui a un peu été abandonnée parfois. Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, après on pourrait, parce qu'on parlait de ça, que c'était un problème par rapport au JO, on pourrait revoir la manière dont le football masculin JO, on pourrait revoir les critères d'admission. Soit on les met sur un pied d'égalité avec les filles, soit on abroge le tournoi et on remplace par une variante du football comme on a fait avec le rugby.
Ouais, par un foot à 7 ou du futsal, quoi, par exemple. Ouais. Ouais,
ou du beach soccer.
Ou du beach soccer.
Ouais, le beach soccer, ça.
Quoi, t'aimes pas le beach soccer ? Qu'est-ce qui se passe, Walid ?
Non, c'est bien le beach soccer.
Il aime vraiment pas le beach soccer.
Non, c'est bien le beach soccer, mais bon,
c'est sympa.
Ouais.
Au JO, non ?
Au JO, oui.
Non.
Oui, non, non, oui.
Ok. Non, non, oui, oui.
Non, mais oui, pourquoi pas, mais
tu vas
changer pour changer, à un moment donné.
Et bon, on va mettre en fait, cette compétition et les Jeux Olympiques, c'est bien.
Oui, voilà. C'était
bien avec Thierry Henry, justement, parce qu'il a...
Je suis pas un anti-foot au JO. Je suis pas un anti-foot au JO comme beaucoup, moi.
Mais grâce à Thierry Henry, on en a beaucoup parlé.
C'est mon avis. C'est mon avis. C'est pas un avis populaire.
On verra si on en parle plus avec Gérard Platic.
On verra si on y sera déjà.
Oui, c'est vrai aussi. Pascal, tu avais un mot à dire, non ?
Non, mais je veux dire, si tous les sports professionnels doivent être sortis des JO, il n'y aura pas beaucoup de participants aux JO. Tous ceux qui gagnent de l'argent via le sport.
Pas, ils trouveront. Ah, ils trouveront de nouveaux sports aux Jeux Olympiques. Oui. On remercie Alexandre, en tout cas, d'être passé dans les grandes gueules du sport. À très bientôt, tu reviens quand tu veux. On remercie aussi Walid, qui est excusé pour la dernière demi-heure. C'est la dernière fois qu'on te fait cette petite fleur.
C'est peut-être la dernière fois des GG cette année.
C'est pas moi qui déciderai, c'est Jean-Christophe Brouet qui revient la semaine prochaine.
Les titulaires reviennent.
Oui, mais tu vas revenir.
Ça a été un plaisir.
Un plaisir partagé.
Vraiment, bravo, plaisir. Bravo, merci. Walid.
Allez,
bravo,
à bientôt,
Walid.
Je garde merci. Pierre-Ambroise Boss merci. Et Pascal Duprat. Dans un instant, on sera d'ailleurs avec Alexis Ocaccord, invité des grandes gueules du sport à 4 jours des Jeux Paralympiques. Le porte-drapeau sera en direct avec nous. N'hésitez pas, 32-16. Si vous avez des questions à lui poser, venez lui poser tout de suite. On revient dans un petit instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Les grandes gueules du sport, de retour en direct jusqu'à midi avant les Paris RMC avec aujourd'hui Pascal Duprat, Pierre-Ambroise Boss. On embrasse Walid Acherchour qui nous a laissé pour la fin de cette émission. Il reste 30 minutes avant les Paris RMC. Dans 15 minutes, ce sont les grandes gueules qui contre-attaquent. Vous le savez, elles vous ont proposé un débat et c'est vous qui choisissez. Et je n'ai absolument aucun pouvoir sur ceux qui nous écoutent. C'est toujours le débat de Pascal Duprat qui est en tête, 53% pour l'avenue évincée par AG2R. Ils veulent parler vélo. Qu'est-ce que tu veux, Pierre?
Mais de toute façon, Pascal, on va devoir être d'accord. On va pas devoir être d'accord à partir de maintenant, puisque Walid est parti. On n'a plus le choix.
Voilà, maintenant, c'est un duel.
Par esprit de contradiction,
c'est un duel
de toute façon, c'est obligatoire.
Un duel magnifique entre Pierre-Ambroise et Pascal.
On va inventer des argumentations.
Allez-y, voter pour Pierre-Ambroise. Vous avez le temps, encore 15 minutes. Duplantis encore plus haut. Moi, je veux l'entendre parler de tout ça. Pour l'instant, 47%, c'est encore
plus haut. Ou du 100 mètres avec Warholm.
On peut jouer.
Mais les gens ne connaissent peut-être pas Warholm aussi. C'est peut-être ça.
Non, mais tu vas nous raconter ça magnifiquement. Allez-y, votez. Ça sera dans 15 minutes. Mais d'abord, on accueille à 4 jours des Jeux Paralympiques quelqu'un qui va avoir un rôle très important, notamment mercredi lors de la cérémonie d'ouverture. Alexis Anquincan, porte-drapeau avec Antonin Keita de la délégation tricolore. Mercredi, ça sera sur les Champs-Élysées à la Concorde. Il est avec nous en direct dans les Grandes Gueules. Bonjour Alexis.
Bonjour, comment ça va ?
Ça va bien, et toi ? Surtout toi, parce que entre ce rôle de porte-drapeau, les sollicitations médiatiques, puisque tu es une sorte de capitaine d'équipe un peu, hein, de grand frère pour tous les tricolores, tu as le temps quand même de préparer ton paratriathlon ?
Oui, bien sûr que j'ai le temps. C'est vrai que les journées, les semaines en ce moment sont bien chargées. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de sortir tout juste de la piscine. Vous voyez, je suis tout frais.
Très bien.
Et non, franchement, tout va bien. C'est vraiment un privilège et un honneur de forcément d'être porte-drapeau de cette belle équipe de France. Et voilà, moi, ça me galvanise. J'ai vraiment hâte d'y être. Et voilà, on va avoir des très beaux Jeux paralympiques, j'en doute pas.
Et notamment mercredi, la cérémonie d'ouverture. Tu avais participé d'ailleurs à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. On t'avait vu en l'un des derniers porteurs de la flamme. Cette fois, tu seras porte-drapeau. On a entendu beaucoup de choses sur cette cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas si tu peux nous donner des exclus là pour RMC, s'il y a des petites surprises. Mais surtout, toi, comment tu t'apprêtes à vivre ça à ce moment-là sur les Champs-Élysées?
Franchement, je ne vais pas avoir d'exclus à vous donner, je suis désolé. mais bien sûr que je m'apprête à le vivre de façon aussi magique que j'ai pu vivre la cérémonie d'ouverture olympique. Je pense que voilà, Thomas Joly va nous orchestrer, j'en doute pas, une superbe cérémonie. Et voilà, aussi, c'est la première fois qu'il y aura une cérémonie hors stade pour les Jeux paralympiques. Donc, voilà, franchement, c'est assez démentiel ce qu'on a vécu avec Paris 2024. Le match aller est fait, maintenant c'est le match retour. Et franchement, il me tarde vraiment d'être à mercredi pour m'imprégner de tout ça et de refaire la fête, parce que là, on sent bien que les Français ont un petit coup de mou après les Jeux Olympiques.
Exactement.
Et du coup, les Jeux paralympiques vont remotiver tout le monde.
Oui, voilà.
Mais apparemment, c'est Pistorius qui allumerait la vasque.
Arrête, c'est bêtise, n'importe quoi, Pierre-Ambroise. Pierre-Ambroise, t'as peut-être une réflexion, une question à poser à Alexis en quinquant?
Non, est-ce qu'il est en forme? Justement, moi, je connais Pierre-Antoine, ton acolyte. Mais bon, voilà, on sait que c'est toi le patron.
C'est dans la forme de ta vie. Sextuple champion du monde de paratriathlon. Et champion olympique à Tokyo.
Ouais, non, c'est sûr que Pierre-Antoine, c'est des très beaux adversaires et ça permet d'éviter de s'endormir un peu trop sur ses lauriers, donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, franchement, je me sens super bien. Je pense que je suis affûté peut-être comme jamais. J'ai passé une très bonne préparation hivernale. Le printemps s'est bien passé. Voilà, les compétitions 2024 ont prouvé qu'il fallait vraiment compter sur moi. J'ai repoussé un peu mes adversaires un peu plus qu'en 2023. Donc pas d'excès de confiance. Forcément, ils vont tout faire pour me battre et moi, je vais tout faire pour les battre. Donc
Grosse pression.
Il a pas plu là récemment, donc ça devrait aller pour la Seine aussi. Il y a une inquiétude là-dessus ou pas?
Il a nagé dans la Seine avant les Jeux Olympiques, Alexis d'ailleurs.
Ouais. C'est sûr que la Seine, elle a fait beaucoup parler. C'est vrai qu'on a vu sur les compétitions d'Olympique entre le triathlon et la natation en eau libre que la qualité de l'eau était un sujet, mais il y avait aussi le deuxième sujet, c'était la force du courant. En fait, on est en train en ce moment d'analyser ça. World Triathlon est en train d'analyser ça parce que, a priori, c'est plus forcément l'analyse de l'eau qui poserait problème, mais presque plus la force du courant.
Ah ouais.
Il y a un plan
mais
B.
Ça pourrait changer les choses. Oui, ça serait quoi le plan B?
Le plan B, ça serait d'avoir un courant que favorable, parce que du coup, on devait faire comme les Olympiques, faire une boucle, partir avec courant favorable et revenir courant défavorable. Mais certaines catégories, certains athlètes auraient énormément de mal à revenir courant de face. Donc du coup, il y a un plan B qui est en train de s'imaginer si jamais le courant reste fort. Mais voilà, en ce moment, il y a une courbe qui est en train de descendre. Le courant est vraiment en train de diminuer dans la Seine. Donc moi, j'espère de tout cœur qu'on restera sur le plan A parce que en ce moment, j'ai vraiment axé vraiment très fort à la natation. Et je pense que c'est vraiment un atout pour moi de pouvoir nager en courant défavorable. Mais je m'adapterai à ce qui sera décidé et on fera avec, quoi.
Ah oui, non, mais ça c'est très important et merci Alexis en quinquant de nous parler de tout ça et notamment de ce décor aussi incroyable autour du paratriathlon parce que c'est le même décor que pour les Jeux Olympiques qui a porté d'ailleurs nos athlètes français. T'as suivi ça, Alexis, Cassandre Beaugrand, championne olympique, Léo Bergère, médaillé de bronze aussi dans cette discipline. Évidemment, pour toi, ça sera le dimanche 1er septembre à 10h15, hein, si tout va bien pour ta catégorie. J'imagine que ces performances aux Jeux Olympiques, ça, avec en plus tout le public qui peut venir gratuitement suivre ça, ça te donne encore une force supplémentaire.
Oui, bien sûr que je pense qu'aujourd'hui, la Fédération française de triathlon n'a quasiment jamais eu d'athlète aussi fort, que ce soit chez les Olympiques, les Paralympiques. C'est une belle consécration pour l'Olympisme parce qu'ils n'avaient jamais encore remporté médaille individuelle, donc là ils ont fait le job. Nous en équipe paralympique, on n'a jamais été aussi nombreux, on est la plus grosse délégation internationale en paratriathlon, on est même devant les Américains. Donc là, on a vraiment un effectif de quantité et de qualité. Donc voilà, on a des grosses ambitions de médailles et forcément, voilà, d'avoir suivi ces courses-là à la télé. On connaît très bien les sites, c'est des sites majestueux. Et c'est sûr que Paris 2024, là-dessus, on nous ont proposé sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques des sites mais monstrueux. Et c'est vrai que Los Angeles va vraiment pouvoir se creuser la tête pour proposer quelque chose d'équivalent parce que là, c'est vraiment des Jeux historiques, quoi.
Alexis, Pascal Duprat, j'ai deux questions en une. La première, et je me semble que la réponse, tu nous l'as donnée, c'est le titre ou rien pour toi. Si tu n'es pas au champion olympique, tu seras forcément déçu.
Oui, le titre, forcément. Et après, je ne vais pas dire le titre ou rien, parce que, encore une fois, nous, le triathlon, on est quand même un sport mécanique. Voilà, sur la partie vélo, il peut se passer plein de choses. Crevaison, chute, casse mécanique. Donc voilà, il faudra analyser si c'est aller chercher une médaille d'argent et une médaille de bronze en ayant remonté de l'arrière parce qu'il s'est passé un gros problème. Ça serait une belle médaille, forcément. Maintenant, oui, je ne vais pas me cacher, je suis favori et j'ai vraiment envie de...
Tu revendiques le fait d'être favori. Et ma deuxième question, c'est pour situer pour nos auditeurs. C'est combien d'heures d'entraînement par jour te concernant ?
Alors en fait, le paratriathlon, donc c'est le format sprint, c'est moitié moins que ce que vous avez pu voir sur le triathlon olympique. Donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est des distances qui peuvent paraître courtes. Par contre, comme ça s'appelle du sprint. Donc en fait, on fait ça à bloc. Moi, pour vous donner une idée, faire ces trois disciplines-là, avec ces trois distances-là, c'est moins d'une heure.
C'est 59 minutes. À Tokyo, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, c'est et là quotidiennement, tu consacres pour chaque discipline combien d'heures d'entraînement?
C'est une semaine classique, c'est entre 25 et 30 heures par semaine.
C'est des malades, les triathlètes. Hein.
Ça représente 30 bornes de natation, 400 de vélo et 50 à pied par semaine, et ça toutes les semaines. Voilà, c'est à peu près une semaine classique, quoi.
Tu es un grand malade, vient de dire.
Mais non, mais les triathlètes, de manière générale, c'est des malade mentaux, on le sait, vous êtes ceux qui sont le plus respectés pour cette raison-là. Moi, j'ai une question, justement, tu es champion olympique en titre, est-ce qu'il y a eu des améliorations au niveau des fédés, enfin voilà, au niveau fédéral, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta prépa par rapport à ce titre et voilà, ce statut de favori, est-ce que tu as été plus aidé?
Alors, pas forcément plus aidé, je pense que nous, on a vraiment la chance d'être Fédération Française de Triathlon qui gère ses équipes olympiques et paralympiques. Donc je pense qu'il y a vraiment une plus-value à ce que ça soit géré en interne comme ça. Et donc on a toujours eu des bons stages de qualité. On a toujours eu, si on avait des demandes particulières individuelles, voilà, tout est analysé. La fédération ne retoque pas forcément pour ça. Donc ça, c'est quand même une chance. Et en fait, moi, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que un triathlète de 38 ans, on va pas le révolutionner en fait. Donc j'ai pas changé diamétralement ce que j'avais fait pour Tokyo, pardon. J'ai même continué un petit peu, c'est-à-dire que j'avais beaucoup préparé sur la thermoroom, donc des conditions chaleur humidité dans des pièces fermées où ça simule du stress climatique au corps et à l'esprit. Et en fait, c'est tellement des entraînements difficiles que je me suis dit que c'était quand même une bonne chose de pouvoir le reproduire à Paris, puisque la météo de Paris, elle était un peu moins facile à déceler. Et on n'est jamais à l'abri d'un coup de chaud quand même à Paris. Donc mes entraînements prouvent que voilà, je suis en pleine forme et on verra par la suite.
Et au niveau transition, justement, on sait que c'est un truc hyper important. C'est quasiment la quatrième discipline du triathlon, en fait, la fameuse phase de transition. Il y a des choses qui ont changé pour toi.
Quand tu parles de transition, c'est entre
la natation, le vélo et le vélo. Ça compte encore plus, d'autant plus pour eux dans ta catégorie.
C'est ça, ouais. En fait, c'est effectivement un quatrième sport très important dans la transition. Donc, je suis déjà chez les Oli, mais encore plus chez les paras. Moi, en fait, en 2017, je suis le premier paratriathlète à réfléchir à faire le vélo et la course à pied avec la même lame, avec la même prothèse, en fait. Et ça a fait gagner beaucoup de temps et maintenant, ils m'ont tous copié là-dessus. Je pense pas qu'il y ait vraiment en tout cas, moi, j'y réfléchis toujours à essayer d'avoir un cran d'avance sur mes adversaires. J'ai pas aujourd'hui eu de réflexion particulière à essayer de gagner encore un petit peu plus de temps, etc. Mais, voilà, j'ai une petite surprise quand même sur la course. mais je ne vais pas la dévoiler
bah non,
tout de suite.
Parce que les adversaires, malheureusement, voilà, écoutent.
On en parlera la semaine prochaine.
On le dira en off, mais tu as bien teasé
la
cette course.
La couleur, hein, ça
avec
fait
la
plaisir.
Petite surprise d'Alexis Anquincan, qui sera donc porte-drapeau mercredi, qui est en direct avec nous. Une question aussi, peut-être, Alexis, au-delà de la performance sportive, qui va évidemment être importante et qu'on va suivre sur RMC, parce qu'on a une radio digitale, d'ailleurs 100% paralympique, qui va voir le jour à partir de mercredi pour suivre toutes les performances, dont les tiennes, Alexis. Est-ce qu'il doit y avoir aussi une prise de conscience dans la population française pour regarder peut-être le handicap autrement? Est-ce qu'il faut une suite à ces Jeux paralympiques, selon toi, toi qui es un des porte-parole hein, de ces athlètes paralympiques?
Bah oui, moi je pense que effectivement c'est un événement unique qui peut nous permettre de gagner tellement comme temps sur les a priori, etc. Moi, je pars déjà du principe qu'en fait, vous n'allez pas regarder des Jeux paralympiques handicap. En fait, c'est des Jeux paralympiques voilà, différents. En fait, c'est du sport de haut niveau de façon un peu différente. Il y a la même volonté de dépassement de soi, il y a la même envie de gagner des médailles, il y a la même voilà, envie, tout simplement. Sauf que la différence, c'est que globalement, 80% des athlètes vont juste le faire différemment avec une prothèse, avec un fauteuil roulant ou avec un guide ou avec une autre pathologie, voilà, mais globalement, en fait, c'est juste du sport de haut niveau. Voilà. Et en fait, le parasport est tellement méconnu en France que, effectivement, malheureusement, peu d'athlètes paralympiques français sont connus. Mais je pense et j'espère que vraiment, Paris 2024 va nous accélérer, va enfin être une mise en avant du parasport. Et du coup, voilà, que ce soit le plus bel héritage, c'est que l'année prochaine, dans deux ans, on ait du para-athlétisme au championnat du monde à la télé, qu'on ait du para-triathlon au championnat du monde à la télé. Enfin, voilà, que ça devienne quelque chose de presque banal.
Ouais.
Et je pense que ce qui est aussi très important, c'est que là, on parle de sport de haut niveau parce que c'est les Jeux paralympiques, c'est les Jeux olympiques. Mais n'oublions pas aussi que l'héritage et le bel héritage de Paris 2024, ça serait de renouer le sport avec tous les Français. Et là, je parle des gens en situation de handicap, mais pas que, en fait. Parce que je pense que c'est vraiment un enjeu majeur de se rendre compte que le sport, finalement, c'est la mixité sociale, c'est le bien-être, c'est le partage. Et ça, en fait, il n'y a pas besoin de faire du haut niveau. On peut très bien le faire en mode loisir, en mode copain-copine. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc, voilà, je pense qu'on a des sujets majeurs d'obésité, de repli sur soi-même, etc. Et voilà, je pense que le sport, il nous a prouvé avec les Jeux Olympiques et il va nous prouver avec les Jeux Paralympiques que finalement, ça unifie, ça rend heureux et voilà, c'est ce qu'il faut, quoi.
Et on espère le même engouement, effectivement, pour ces Jeux Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Avec toi, donc en tête de gondole, Alexis, hein, tu seras avec le drapeau dans les mains mercredi, Alexis Anquincan, et puis ensuite pour le paratriathlon et aller nous chercher, on l'espère, la médaille d'or et le titre de champion olympique. C'est tout ce qu'on te souhaite avant, peut-être, pourquoi pas, une place dans les grandes gueules du sport, parce que je trouve que tu as le profil, Alexis. Merci beaucoup,
en
tout cas.
Pourquoi pas,
bonne chance,
mon gars. C'est pas moi qui décide, hein, mais voilà, je trouve que tu serais parfait. Merci beaucoup en tout cas. Bonne prépa et bon jeu paralympique à toi, que l'on va suivre donc sur RMC en direct. Bien évidemment, RMC radio officielle de ces Jeux paralympiques. Demain, Michael Jérémias sera avec nous dans les grandes gueules du sport. Ancien porte-drapeau, lui, à Rio en 2016, chef de mission pour ces Jeux paralympiques. Il viendra nous voir à 11h30. On revient dans un instant avec les grandes gueules contre-attaque. Vous pouvez encore voter pour Pierre-Ambroise Boss.
Allez,
la dernière ligne droite, c'est maintenant pour qu'il essaye de passer devant.
Alors,
Pascal Dupraz, ça se joue à rien. Hein. Allez-y, vous avez quelques secondes. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h50 dans les grandes gueules du sport. La dernière ligne droite, la spéciale de Pierre-Ambroise Boss, c'est maintenant avec Pascal Dupraz aussi. Bien sûr, c'est grandes gueules du sport. On embrasse Walid Acherchour qui était avec nous depuis 9h ce matin. Vous pouvez retrouver le podcast, bien sûr. Et puis dans un instant, ce sera les paris RMC pour parier sur toute la Ligue 1. Allez, c'est le moment. Ils prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les GG qui vous ont fait deux propositions de débat ce matin sur le compte X des grandes gueules du sport. Et ça y est, les votes sont clos. Et le deuxième, c'est Pierre-Ambroise Boss. Ça s'est joué à rien, Pierre-Ambroise, avec ton débat sur
une Walid, moi je me casse.
47%. Ah, ça s'est joué à pas grand-chose, malheureusement.
Armand, il n'a pas sauté assez haut. Non, tu vois.
Vous êtes que deux, donc
dit,
médaille
hein.
d'argent. Le grand vainqueur, c'est Pascal Duprat. Il va donc pouvoir nous parler de Vincent Lavenue, licencié d'AG2R bientôt, sans ménagement, alors qu'il était le boss. Et ça t'interpelle. Oui. On en reparlera demain d'ailleurs avec Jérôme Pinault, mais tu peux.
Oui, c'est
déjà
pour ça que tu voulais. C'est pour ça que tu voulais que je me fasse.
Ça m'arrangeait, t'as bien compris.
Ben oui, j'ai voilà. bien compris.
Mais c'est, j'ai rien contre
en fait,
toi.
j'ai une affection particulière pour le vélo, mais aussi une affection particulière pour Vincent Lavenue. Je vais te raconter une anecdote. En 2019, étape du Tour de France, Embrun-Valoir, je suis dans la voiture de Vincent Lavenue. On est au sommet du Galibier et il n'y a plus de direction assistée. Crois-moi, c'est la première fois que j'assistais à une étape. Bardet était devant avec Quintana, c'est Quintana qui a gagné. Et dans le Galibier, la descente, avant d'arriver à Valois, plus de direction assistée. Tu sais pas comment je me suis liquéfié, vraiment. Bah oui. J'ai constaté que Vincent Lavenue était un excellent pilote ce jour-là. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas, et c'est souvent le cas malheureusement aujourd'hui dans le sport business, Vincent Lavenue, il y a deux ans, il a vendu son équipe pour à peine 10 000 euros pour faire en sorte de protéger 120 emplois. D'accord ? Donc il s'est volontairement sacrifié, il a été déclassé. Et voilà pas que j'apprends cette semaine, alors ça restera à vérifier, vous l'avez tous lu certainement, j'apprends qu'il a été...
Qu'il y a une procédure de licenciement.
Ou en tout cas, voilà, qu'il subit une procédure de licenciement. Jusqu'alors, bah, c'est comme ça. Il n'est plus payé depuis le 21 juillet, d'accord ? Il sera donc sans indemnité de licenciement et ils lui font sauter sa retraite complémentaire. Et ça, je parle sous couvert de Vincent. Et il n'aura pas le droit, puisqu'il n'aura pas le droit au chômage. Je trouve qu'un personnage comme ça, qui depuis 92 était le fondateur de l'équipe AG2R, je trouve que ces procédés-là sont trop communs aujourd'hui et que ça manque de classe. Voilà, ça manque de classe de la part d'AG2R, la mondiale, et je peux même ajouter Décathlon devant, ils sont nombreux, ça manque de classe. Voilà, une page se tourne, certainement. C'est une personne qui a fait signer plus de 400 contrats à des coureurs professionnels. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on voit Ben O'Connor comme quoi c'est quand même Vincent Lavenue qui le découvre. Bardet, Jackie Durand, Vinokourov, le sprinter. J'en passe,
c'est
les meilleurs.
C'est une figure,
je trouve
évidemment,
que la manière de faire, elle me fait tout juste gerber. Donc voilà, Vincent tient le coup. C'est les procédés actuels. Ça manque vraiment, vraiment, vraiment de classe.
Voilà, c'était le message et le coup de gueule. Donc c'est pas un débat qu'il a lancé, mais c'était le coup de gueule de Pascal Duprat, que j'imagine tu partages aussi, même si t'es pas.
Mais non, mais je suis en train de dire en fait. Je ne savais pas. J'apprends.
Mais c'est vraiment une figure emblématique, Vincent Lavenue, du cyclisme. Et comme il y a eu ce changement aussi de propriétaire à AG2R, il y a eu aussi de l'argent frais injecté par le sponsor, notamment Décathlon, puisque maintenant c'est Décathlon AG2R, y a un changement de direction et il va être la victime de tout ça.
Le dénominateur commun, c'est Décathlon. Et voilà, mince. On n'en dira pas plus.
Ah, d'accord,
mais
alors là, voilà. Il veut régler ses comptes avec Décathlon.
Non, je rigole.
J'étais ouvert la voie.
Non.
Allez, PA, il reste 5 minutes.
On a 5 minutes.
On n'a même plus, on a 50 secondes. Tu voulais rien dire sur Décathlon. Tu n'auras plus tes chaussures gratos chez Décathlon, fais gaffe, Pierre-Ambroise.
Je vais peut-être y aller tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'on va faire le Gérard avec des potes, il m'a renfalé. Peut-être pas être bienvenu du coup là-bas.
En tout cas, merci pour ce coup de gueule, évidemment. Et on en parlera demain avec toi, Pascal, mais aussi avec Jérôme Pinault qui suit cette affaire aussi de très près. La cloche, vous la connaissez maintenant. C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter la totale de la rentrée. MacBook Air, iPhone 15, Apple Watch, PlayStation 5. Il n'y a rien de Décathlon pour l'instant. Envoyez coffre au 732 16. Vous avez 5 minutes dès maintenant pour vous inscrire jusqu'à midi donc pour jouer et ouvrir le coffre RMC toute la semaine prochaine. N'hésitez pas dès maintenant. Merci beaucoup Pierre-Ambroise
merci,
d'être
merci
passé.
Beaucoup.
À très bientôt. Bah bon GR20, parce que voilà, tu vas aller faire
le GR20. Les gens n'ont pas vu, mais il a fait un geste.
Voilà,
avec
le geste apte de celui qui marche longtemps. Merci Pascal, à demain dans les grandes gueules du sport.
Merci, on se retrouve merci demain. À demain.
Vous avez été parfait, merci aussi Walid Acherchour.
Bravo pour avoir gagné le débat, Pascal.
Non, oui, mais bon.
Sans rancune.
Il a l'habitude, Pascal, dans les grandes gueules du sport. Il sait ce qui fait réagir les gens, t'inquiète pas. Allez, on revient demain, nous, entre 9h et midi.